Avec notre invité spécial ce matin, Emmanuel Macron, et des questions internationales, avec Bernard Guetta qui nous a rejoint. Bonjour Bernard.
Bonjour.
D'abord une réaction à cette Amérique, Emmanuel Macron, cette Amérique qui se barricade, c'est l'une des toutes premières décisions du président américain. Vous, président, que diriez-vous à Donald Trump? Que diriez-vous publiquement?
D'abord, je lui proposerais de travailler ensemble et de continuer l'histoire dans laquelle les États-Unis et la France sont inscrites. Parce que quand on est responsable politique, et compte tenu de ce à quoi j'aspire, on doit réancrer les États-Unis dans le camp occidental, dans cette relation transatlantique qui est multiséculaire, parce que c'est un combat commun pour la liberté qui nous a toujours unis, mais qui depuis 1945 a une responsabilité fondamentale dans l'ordre du monde. Et donc aujourd'hui, évidemment, tout ce que décide Donald Trump, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'en exprimer publiquement à plusieurs reprises, c'est un repli de l'Amérique sur elle-même. C'est ça qui est préoccupant. Il fait des choix de politique intérieure. Je ne sais pas à les commenter, je ne partage pas cette sensibilité-là, qui, je pense, ne correspondent pas à ce qu'est la société civile américaine et les valeurs des États-Unis.
Mais et le décret de fermeture des frontières?
Complètement, je me suis d'ailleurs exprimé ce week-end pour dire que j'étais contre. Mais le plus important, c'est la capacité que nous avons à réancrer les États-Unis dans à la fois un dialogue transatlantique, parce qu'il est fondamental pour la sécurité de notre région et la sécurité du monde, parce que nous avons construit la sécurité européenne, la capacité à sécuriser Proche et Moyen-Orient, et même à avoir des coopérations très fortes en matière de renseignement en Afrique, et nous travaillons ensemble, donc il ne faut pas abîmer cette relation. Et ensuite, je pense qu'il est important que les États-Unis avec nous continuions à défendre ce que sont nos valeurs. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un ordre mondial profondément percuté, nous sommes en train de vivre les soubresauts de la chute du mur, cet ordre multipolaire dans lequel nous sommes. Vous avez des puissances régionales hégémoniques, la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui se développent avec des idéologies et des valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais avec lesquelles nous devons avoir un dialogue exigeant. Avec une Chine qui est, elle, de plus en plus dans la mondialisation, avec une conscience d'ailleurs du monde qu'a montré le président Xi encore récemment, impose que le bloc occidental, qui partagent une même relation à des valeurs, puissent travailler ensemble. La sensibilité européenne n'est pas la sensibilité américaine.
Mais il n'y a plus de bloc occidental, vous venez de le dire.
Mais je suis en train de dire que la responsabilité, et ce vers quoi je veux aller, c'est d'abord d'ancrer M. Trump dans la conscience de sa responsabilité historique.
Il nous tourne le dos là, pour
l'instant. Je suis d'accord avec vous, il nous tourne le dos. Mais ce qui est très important quand on veut agir en responsabilité, c'est de ne pas répondre à des offensives par de la contre-offensive en la matière.
D'accord. Et donc, encore sur le décret Trump, Emmanuel Macron, est-ce que l'Europe est si bien placée pour donner des leçons à Trump, cette Europe qui, en dehors de l'Allemagne, a elle aussi fermé ses portes aux réfugiés du Proche-Orient?
D'abord, il faut toujours avoir l'esprit de finesse dans ses affaires.
Vous voulez dire que ma question manquait un peu de nuance?
Non, je faisais référence à Pascal, et je voulais dire par là qu'en Europe, à part certains États d'Europe de l'Est qui ont eu des propos inacceptables et auxquels nous avons fait des concessions de principe inacceptables, l'Europe n'a pas pris des textes, et la France au premier chef, comparables à ce que M. Trump a fait, qui sont des vraies interdictions d'entrée dans le territoire américain venant de cet État. Et je pense qu'à terme, il finira comme d'habitude avec un ou deux États, on le sait bien, et il vise la Syrie. Par contre, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'Europe n'a pas eu une réponse à la hauteur sur le sujet des réfugiés, et n'a pas eu une réponse à la hauteur sur le plan humain et sur le plan de l'efficacité. J'étais il y a quelques jours au Liban, pays de 5 millions d'habitants où il y a plus d'un million de réfugiés, et où les choses se passent, elles sont très dures, hein, très dures, mais où les choses se passent avec un esprit de responsabilité, de générosité qui correspond à nos valeurs. Et donc le combat que nous avons à mener sur le sujet des réfugiés, c'est un combat qui d'abord est très pragmatique. L'Europe doit organiser une gestion de l'asile avec les pays tiers et les pays d'origine pour éviter que des gens prennent des risques totalement indus à traverser la Méditerranée sans savoir s'ils auront ou pas à l'issue un titre de séjour. Nous devons avoir une vraie politique européenne, nous devons raccourcir les délais d'instruction. Il y a des vraies réponses pratiques que j'ai proposées pour répondre à tout cela. Mais derrière, on ne doit jamais perdre de vue qu'une femme ou un homme qui est réfugié politique, ça n'est pas quelqu'un qui choisit par confort de quitter son pays. C'est quelqu'un qui, au nom de ses principes, de sa sécurité, parce qu'il a des opinions, a pris tous les risques pour venir se réfugier chez nous. Et nous sommes dans une lutte aujourd'hui, qui est une lutte de civilisation face à un djihadisme islamiste et un totalitarisme d'une nouvelle forme. cette lutte, je la mènerai avec beaucoup de réalisme et d'exigence. Mais à quoi sert cette lutte si à la fin nous ne savons pas défendre nos principes ?
Sur l'Europe et l'économie, et la relance économique, Bernard Guetta ?
Oui, une question fondamentale. Vous avez dit à Berlin, il y a 2 semaines à peu près, que vous souhaitiez un développement des investissements communs de l'ensemble des pays de l'Union. Parfait, parfait, très bien, d'accord. Mais est-ce que nos partenaires sont d'accord avec cela ? Est-ce que ce n'est pas purement et simplement un vœu pieux ? De votre part.
Ça n'est pas un vœu pieux parce que derrière, ça suppose que la France prenne ses responsabilités. Vous avez raison, et c'est mon grand désaccord, et avec François Fillon et avec Benoît Hamon, c'est que moi je suis un Européen cohérent. C'est-à-dire que je vais au bout de l'idée européenne. Quand je veux plus d'Europe, je dis en même temps que nous devons prendre nos responsabilités européennes.
Ça veut dire quoi ?
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Europe n'avance plus ? C'est que d'abord, depuis 12 ans maintenant, depuis le non-français et néerlandais au traité, nous ne proposons plus rien pour l'Europe. Ce que je suis allé faire à Berlin, c'est proposer un nouveau deal européen aux Allemands, mais plus largement à nos partenaires, en matière d'investissement, en matière économique, en matière de sécurité et de défense.
Vous avez le sentiment qu'il pourrait être accepté, ce deal ?
Je suis convaincu qu'il peut être accepté, mais quel est le préalable ? Que la France prenne ses responsabilités.
Quelle sur les 3%, sur le respect des déficits.
Sur le respect des déficits, sur le respect des réformes. Quelle est l'histoire du couple franco-allemand depuis 15 ans ? C'est une histoire de défiance progressive. Vous le savez bien.
On la connaît, justement.
La France de 2003, c'est une France qui dit, avec Jacques Chirac, nous n'allons pas respecter les déficits publics pour faire les réformes et qui ne les fait pas. C'est ensuite la France de 2007.
Emmanuel Macron, pardon, qui dit, on connaît l'histoire.
C'est important.
On la connaît.
Bon, mais aujourd'hui. Donc il y a une défiance. Donc ce que je propose.
Et celle de 2012 de François Hollande qui promet de renégocier le traité européen.
Oui, ce qui est très différent. Permettez-moi là de vous dire les choses, c'est pas une défiance, c'est une défiance qui peut se construire avec le peuple de gauche et une partie de ses électeurs, mais pas avec l'Allemagne. Et je pense que la France de 2012, il faut rendre cela à François Hollande, pour la première fois, c'est un président qui décide de ne pas déchirer la trajectoire financière dans laquelle il s'est inscrite.
Forcément,
vis-à-vis des partenaires allemands.
Il n'est pas allé à la confrontation avec l'Allemagne, c'est ce qu'il lui reprochait.
Est-ce que c'était l'un de mes désaccords, donc je peux le porter ici.
Vous pensez qu'il faut aller à la confrontation avec l'Allemagne ?
Non, je pense que ça c'est une maladie infantile de la France. C'est-à-dire qu'on dit toujours, parce que c'est très sympathique, on va, vous savez quoi, je vais renverser la table avec les Allemands, de gauche comme de droite. Je vous dis, c'est très œcuménique ça, pour répondre à Thomas Legrand. Ça fait partie de l'imaginaire de la gauche et de la droite. En France, il faut toujours dire, on va taper sur l'Allemagne. Simplement, on n'avance pas en Europe si on est contre les Allemands. Le couple franco-allemand, c'est la condition nécessaire et non suffisante d'une avancée européenne. Mais ce que je vous dis, c'est que la France, en effet, aurait dû avoir, à un moment, une capacité à créer plus de tensions. C'est pas renverser la table ou être dans la confrontation pour changer, non pas en 2012, mais en 2013-2014, le dogme européen sur le plan économique. Ça n'a pas été fait, c'est le passé.
Mais ça veut dire qu'on respecte le traité de Maastricht, ça on respecte les plafonds,
oui.
Mais on exige des investissements communs.
Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la démarche qui est la mienne vis-à-vis des Allemands, c'est de leur dire, premièrement, je veux réformer le pays. Je veux, sur le plan du marché du travail, sur le plan de l'éducation, de la formation professionnelle, proposer, c'est mon programme, ce que depuis le 10 décembre dernier je décline, transformer en profondeur la France pour lui permettre de réussir dans une économie des compétences et de l'innovation, là où elle est bloquée aujourd'hui. Et donc les réformes, on a commencé à en parler tout à l'heure avec votre collègue, ils répondent, nous ne l'avons pas fait depuis 15 ans. Donc c'est le préalable à la crédibilité. La deuxième chose, c'est de leur dire, oui, nous nous sommes collectivement fixés des règles sur le plan budgétaire, d'accord. Il faut les respecter.
Donc on les respecte et les Allemands acceptent les investissements communs ?
La condition, parce que dans le cadre de ces règles, il y a des flexibilités, c'est de dire plusieurs choses. Donc nous sommes des partenaires crédibles. Regardez-moi, regardez ce que je fais. Nous avons la capacité à réformer. Mais de l'autre côté, considérez avec moi que la politique économique dans laquelle nous nous inscrivons depuis des années est une mauvaise politique économique. Parce qu'elle repose sur une défiance mutuelle. Les Allemands considèrent que nous ne faisons pas les réformes, nous considérons qu'ils ne font pas les investissements.
Non mais c'est clair, mais les Allemands, au bout du compte, acceptent votre argumentation ou pas ?
Les Allemands entendent mon argumentation et je pense très profondément l'accepte. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne...
Vous l'avez entendu dire à Berlin,
mais
ça ?
Bien sûr, et j'ai eu cet échange. Je l'ai eu avec des représentants politiques et je l'ai eu avec des dirigeants économiques. Mais parce qu'ils ont d'abord besoin... Vous savez, le jeu de la défiance dans lequel nous nous sommes inscrits, c'est un jeu qu'il faut un moment rompre en prenant ses responsabilités. Celui qui doit commencer, c'est le camp français. Parce que c'est nous qui avons trahi cette confiance.
D'accord. Donc proposez un donnant-donnant à l'Allemagne, quoi.
Exactement. Je cite souvent cette phrase de Lévinas, « La confiance, c'est le problème de l'autre. » Et donc, il y a un moment donné, si vous voulez redéclencher un cycle positif, vous devez vous prendre vos responsabilités. Mais je l'ai dit aux Allemands. Vous savez, quand vous allez en Allemagne, il y a une obsession. Est-ce que le Front National peut gagner en France? Moi, je leur ai répondu, oui, il peut gagner en France. Et les populismes peuvent gagner partout en Europe. Si nous continuons collectivement à reproduire, en quelque sorte, les erreurs économiques et politiques que l'Europe a commises durant les années 30.
À propos...
C'est-à-dire celle d'une politique de déflation. Nous avons une chance depuis 2012. C'est que grâce à l'accord politique de juin 2012, qui est la dernière grande bonne décision de l'Union européenne, et la France y a joué un rôle, la BCE a une politique intelligente, la Banque Centrale Européenne. Et elle n'a pas la politique que la Bundesbank avait dans les années 30. Mais sur le plan politique, nous avons des mauvaises décisions. Les équilibres sont mauvais. Et donc, moi je veux faire les réformes et respecter le 3% pour pouvoir ensuite ouvrir avec les Allemands un vrai débat pour changer nos équilibres macroéconomiques. Parce qu'on a besoin de plus...
C'est-à-dire les équilibres européens.
Les équilibres européens et en particulier zone euro. On a besoin de plus d'investissements, on a besoin de flexibilité accrue pour être, comme on le dit techniquement, contracyclique.
Est-ce qu'on a besoin,
pouvoir relancer.
Emmanuel Macron,
et on a besoin d'un budget de la zone euro.
Protectionnisme. Quand vous étiez dans le bassin minier, vous avez fait allusion à cette visite tout à l'heure, vous avez parlé devant les habitants du bassin minier de chair à canon de la mondialisation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des taxes pour interdire ou pour ralentir la chinois.
On n'a pas besoin de protectionnisme, on a besoin de protection. C'est le grand distinguo qu'il faut faire. C'est celui d'ailleurs quand j'étais ministre pour lequel je me suis battu. Et c'est là où l'Europe se trompe. Et là-dessus, c'est très important qu'on ait ce débat. On ne doit pas laisser la critique de l'Europe aux anti-européens. Moi, je suis un fervent défenseur de l'Europe parce que je pense que la France construit sa souveraineté sur le plan international aussi par et dans l'Europe. Mais il faut pouvoir, quand on croit à l'Europe, la critiquer. Et donc, je me suis battu quand j'étais ministre contre une Europe où tout est ouvert. Et nous avons aujourd'hui la possibilité, quand un pays ne respecte pas les équilibres internationaux, ce qui est le cas aujourd'hui sur l'acier, sur le pneu et beaucoup d'autres biens.
Sur les travailleurs détachés aussi.
Donc on peut revenir sur ce sujet qui est largement intra-européen. Qui est largement intra-européen, ce qui n'a rien à voir.
Donc on met des taxes.
Il ne faut jamais oublier que la France est le troisième pays qui fait du travail détaché. J'entends beaucoup de propositions formidables, mais les gens oublient que nous avons des travailleurs détachés chez nous.
Sur l'acier, les pneus, on met des taxes?
Bien sûr qu'on met des taxes. Moi, je me suis battu comme ministre pour faire deux choses. On doit aller beaucoup plus vite. L'Union européenne répondait en 8 mois, les États-Unis mettent 2 mois. Inacceptable. On peut le faire, c'est une question d'organisation. Simplement, on était dans la langueur. Donc, indispensable. On doit agir vite. J'ai réussi à faire réduire les réponses, il faut le faire encore plus vite. Et deux, il faut mettre des taxes beaucoup plus élevées. Qui se battait contre cela? Des pays ultra-libéraux qui ont subi l'effet de revers de plein fouet. Les Britanniques, et j'avais ce débat avec mon collègue britannique, il a subi la fermeture de Port Talbot, qui était une grande usine de sidérurgie, balayée par le dumping chinois et indien, parce qu'il n'a pas voulu réagir. Et ça a été un des arguments d'ailleurs pour la sortie de l'Union européenne. Mais la réponse à ces attaques chinoises, indiennes, qui ne sont pas liées au commerce international, mais au non-respect des règles du commerce international, parce que c'est du dumping, ça n'est pas moins d'Europe. C'est une vraie Europe qui sait se défendre. Et donc, on doit construire une vraie souveraineté européenne. C'est ça la réponse.
Emmanuel Macron, merci à vous Bernard Guetta.
J'ai un point très important parce que...
On va y venir. On a encore une demi-heure devant nous.
Sur l'Europe.
C'est l'heure de la rue. On va respecter les horaires.
Excusez-moi.
Je suis solidaire.
À une minute près.